9h24 minutes. José Carey a été policière à la GRC. Elle est maintenant retraitée et vous allez comprendre pourquoi avec son livre qui s'appelle Flashback, ma vie avec un trouble de stress post-traumatique. Madame Carey, bonjour.
Bon matin.
D'abord, vous aviez toujours rêvé d'être policière. C'était votre rêve de petite fille, là.
Toujours. Depuis que j'avais 7-8 ans, moi, je voulais être policière, jouer à la police. C'était ce que j'allais faire dans la vie, c'était clair.
Pourquoi cette passion-là?
Je sais pas. On me pose souvent la question parce qu'il n'y a aucun policier dans ma famille. Je me souviens qu'à un moment donné, mon père, il avait un garage et tous les policiers venaient faire réparer les autos. Puis il y avait une femme police qui était venue, puis je la trouvais donc ben hot. Je la trouvais, tu sais, elle avait une belle prestance. Puis je pense que c'est là que ça a parti de vouloir devenir policière. Et c'était la GRC, parce que moi, d'où je viens, au Nouveau-Brunswick, c'était la GRC qui desservait chez notre région.
Et là, vous êtes allé donc faire une demande d'emploi. Vous avez été retenu. Vous êtes allé en session d'entraînement pendant 6 mois.
6 mois à Regina, oui, à Saskatchewan.
Ça se passait comment?
Super bien, vraiment. Moi, quand je suis arrivée là, j'ai été élue chef de ma troupe. J'étais une des seules femmes qui était chef de troupe à ce moment-là. C'est quand même 23 ans passés. Ça s'est super bien passé. À tous les jours, je prenais de la confiance, puis très bien.
Mais vous dites dans le livre que dès que vous êtes affecté, d'ailleurs, ce qui est un peu étonnant, parce que souvent les recrues vont dans d'autres provinces, vous êtes allé dans votre province d'origine, au Nouveau-Brunswick.
Oui, tout le monde qui a gradué de ma troupe sont partis en Colombie-Britannique et dans le Grand Nord. Je suis la seule qui est revenue au Nouveau-Brunswick. La division J de la GRC avait un œil sur moi pour me rapporter au Nouveau-Brunswick. Et j'ai été postée à Richibouctou, une petite communauté, pas loin d'où je viens, à trois heures de route de chez mes parents.
Racontez-nous le premier quart de travail que vous avez fait.
Mon premier quart de travail, je devais commencer à travailler le lundi matin, donc je me suis présentée dans ma nouvelle ville le dimanche soir. Et j'ai eu un appel pour me dire que je serais le renfort pour la nuit d'un policier. Et puis j'ai dit je peux pas parce que j'ai pas d'armes, j'ai pas rien, ma ceinture est au détachement. Ça devait m'être remis le lendemain matin. Il m'a dit de toute façon, il y aura sûrement rien qui va se passer. Et puis là à 1h05 du matin, j'oublierai jamais le moment, dispatcher nous a téléphoné pour dire qu'il y avait une émeute avec une personne qui était atteinte d'une épaule par balle. Fait qu'à ce moment-là, je commence à trembler, j'ai un peu peur. On s'en va dans la communauté autochtone qui est à 16 km d'où je suis. Et puis là, ma petite jambe commence à trembler. Puis quand on arrive sur les lieux, j'ai le fusil de chasse dans mes mains qu'il y a dans toutes les autos de police. Mais je suis obligée de le laisser là parce que il y a deux femmes qui se battent vraiment violemment devant nous. J'ai besoin de mes deux mains. Fait que je me dis que je suis sortie un peu tout nue, sans équipement. Et puis j'ai contrôlé les dames qui se battaient. Et après, on est rentré dans la résidence et la personne n'était pas atteinte par balle dans l'épaule, il était atteint par balle dans la tête. Et il y avait une grosse mare de sang sur la table. Il y avait une dame qui frappait dans le sang. Et à ce moment-là, quand je suis rentrée là, j'entendais les cris à l'extérieur des gens et des petits-enfants parce que c'était un carré de maison mobile. Tout le monde était sorti dehors. Et puis là, à ce moment-là, j'avais peur de me faire sauter dans le dos. J'ai fait pipi dans mon pantalon parce que j'avais vraiment peur. Et je me suis rendu compte que j'avais peur de la mort. J'ai fait la job comme on m'a demandé de le faire le mieux possible. Et puis, après ça, je me suis dit, moi, je m'en vais voir le boss quand je vais arriver au bureau, puis je lâche tout ça. C'est pas pour moi, j'ai peur de la mort, je vivrai pas ça. Et c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée au bureau et mon partenaire m'a tellement vanté auprès de mes collègues pour dire à quel point j'avais bien répondu à l'appel. Puis je me disais, voyons donc, t'as pas vu là que je tremblais tellement que j'avais peur. Puis là, ça m'a comme remonté les épaules, puis j'ai continué.
Dans le livre, la première partie du livre, vous décrivez une série d'interventions. Là, c'est un cas. Je voulais qu'on en donne un plus détaillé, mais de gens que vous avez trouvés, des gens qui s'étaient suicidés, batailles. On a tenté de vous désarmer à un moment donné.
Oui.
Et à chaque fois que vous terminez la description de ces événements, vous dites « j'ai peur ».
J'ai peur. J'ai peur.
C'est à chaque fois.
J'ai peur de la mort. J'ai peur de me faire tuer. Je me souviens des fois de partir sur un appel que je savais que ça brasserait tellement, puis on n'était pas beaucoup, c'est ça le problème. On n'était pas 10 autos de police qui arrivaient sur un appel, on était 2, ou des fois, le backup était loin avant que ça arrive. Et je me rappelle d'écrire « Papa, maman, je vous aime », puis mettre ça dans ma veste anti-balles, puis me dire « si je sors de là, morte, ben, ils auront ce petit mot-là. T'sais. Puis ça m'est arrivé souvent de faire ça. Je faisais ça en m'en allant, j'écrivais ce que je scribais, je mettais ça dans ma veste anti-balle, puis je partais répondre à l'appel.
Ce qui vous a pas empêché, pardon, de continuer votre carrière au sein de la GRC. Vous avez continué à faire de la patrouille, puis après ça, vous êtes allé sur des escouades plus spécialisées.
Oui.
Avez-vous pensé à démissionner à un moment donné pour vrai en disant, là, écoute, ça n'a pas de bon sens, à chaque fois j'ai peur ou je me sens mal?
Ben j'ai pas un moment donné là, alors qu'on a été entouré là pendant des heures de temps où est-ce que j'ai négocié là pour ma vie là cette journée-là je me souviens d'être sortie de la communauté puis dire c'est fini là moi je suis plus capable d'en prendre je vais tout lâcher ça là puis le lendemain j'arrive au bureau puis j'avais une 10-04 ce qu'on appelle c'est quand un rendement exceptionnel et j'avais un rendement exceptionnel fait que ça à chaque fois j'avais une petite tape sur l'épaule ou que je sauvais la vie de quelqu'un ou que j'avais quelque chose de positif je me disais ben je vais continuer mais tu sais c'était mon rêve de petite fille c'était la fierté.
En même temps je disais ça hier puis je me disais mais si tu rêves de travailler dans la police tu sais que dans la police tu vas être confronté à de la violence à des gens qui se tuent des gens qui s'enlèvent la vie des gens qui vous saviez que c'était pour être ça, non?
Oui, je le savais, sauf que on nous a pas appris tout ça. Quand on s'en va à l'école de police, on nous apprend pas tout ça. J'avais pas réalisé que ça pourrait être autant. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai été transférée. Fait que j'ai comme tout mis ça dans un petit tiroir. J'ai tout serré ça. J'ai serré mes uniformes. Puis je me suis dit, j'ai été transférée ici au Québec. Là, j'étais redevenue enquêteur. Que plus personne ne saurait chez une police, mon voisin ne saurait pas. Parce que là-bas, où est-ce que j'habitais, veux pas, tout le monde connaissait la femme police, elle habite où, parce que c'est une petite communauté. Fait que t'es toujours surveillé.
Notre invité ce matin, José Kéré, qui est retraité de la GRC, auteur du livre Flashback, donc sur le syndrome post-traumatique. Vous avez accumulé ça pendant combien d'années?
J'ai accumulé ça a duré 6 ans, cette période-là, que j'étais en uniforme. Après ça, j'ai continué de travailler, mais j'ai fait vraiment des beaux dossiers. J'ai travaillé aux drogues, où est-ce que j'ai fait des grosses enquêtes, des écoutes électroniques, de l'infiltration, la surveillance, toutes les techniques d'enquête possibles. Et puis là, à un moment donné, j'ai été transférée au terrorisme. Comme chef d'équipe. Et puis là, je suis devenue responsable d'une équipe, d'une enquête de niveau international avec le FBI. Et puis là, ça me remonte les épaules encore parce que là, je m'en vais au FBI à Washington, puis on présente notre dossier, puis ils nous trouvent qu'on est des bons enquêteurs. Fait que je suis fière de moi, je continue. À un moment donné, je vois des images vraiment, des images qui m'ont beaucoup dérangée dans le dossier. Et puis là, c'était 13 ans plus tard, et ça m'a tout rapporté, tous mes flashbacks, tout ce que j'avais vu de pas beau sur la communauté, dans la communauté autochtone avant, ça commençait à me ramener. Mon visage a commencé à engourdir, j'ai commencé à vomir, mais j'ai duré ça pendant 9 mois avant de frapper un mur.
Et c'est quoi? C'est un mélange de ces images-là puis de la fatigue professionnelle aussi? C'est un cumul, ça?
C'est clair. Ça faisait des années, moi, depuis toujours, que je me donnais comme à 200% dans tout. Et puis là, quand je suis arrivée là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase.
Et vous avez été comme ça pendant 2 mois. Vous dites dans le livre que vos collègues de travail vous voyaient arriver le matin en disant « Hey, ça va pas, là ».
Je me suis fait dire une fois la semaine avant que je frappe le fameux mur, quelqu'un m'a dit « José, tu m'inquiètes ». Moi, j'ai dit « Je vais me reposer en fin de semaine, tout va être correct ». Parce que moi, j'avais 54 gars et filles en dessous de moi. On m'avait dit une semaine avant que je tombe « Mais tu sais, José, t'es comme la fondation d'une maison. Si tu tombes, on tombe toutes comme des dominos. Fait que moi, je suis qui pour laisser tomber mon monde? Parce que je les aime, j'aime mon équipe. Je veux pas que... Je suis comme la maman qui veut garder ça ensemble.
Racontez-nous la journée où là, ça pouvait plus fonctionner.
Ouais, la journée où ça pouvait plus fonctionner, c'était novembre 2015. Je suis repartie à la maison. On m'a retournée à la maison. Et puis là, j'ai pris le train. À un moment donné, ça tournait. Je savais pas comment je pourrais sortir de là. Et puis, quand je suis venue à bout de sortir du train à la gare, j'ai vomi sur un monsieur. Puis ce monsieur-là, lui, m'a pris les bras. Puis il m'a dit, madame, j'appelle une ambulance. J'avais tout mon visage tout croche. J'appelle une ambulance, puis je disais non, monsieur, puis là je m'excusais pour ses pieds, et puis j'ai dit, monsieur, inquiétez-vous pas, moi je suis faite forte, je suis une police. Puis il m'a dit, je me fous que t'es une police, je pense que t'as besoin d'aide. Puis le monsieur m'a porté main dans la main jusqu'à mon camion, Et puis quand il est parti, j'ai convaincu que j'étais correct. Puis là, ça a tout lâché. J'ai senti que ça lâchait tout. Puis j'ai senti que mon corps, il m'a dit, ben fous-moi la paix. Là, je suis plus capable de toi. J'ai fait une grosse crise de panique que j'avais pas faite depuis longtemps. Ça respirait plus, ça marchait plus. Là, je pensais que je faisais une crise de cœur. Finalement, ben c'était la fin. Là.
Vous racontez dans le livre tout le parcours parce que quand on a des symptômes aussi clairs que ça, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas simple. On va voir le médecin, antidépresseur, propose une thérapie. C'est pas facile à traiter. C'est pas facile à.
Puis moi, je l'acceptais pas. Moi,
en plus.
Quand on m'a dit, le premier médecin que j'ai rencontré, elle m'a dit, tu souffres de dépression majeure. Et puis moi, je me suis dit dans ma tête, ben, elle sait pas de quoi qu'elle parle. Moi, je suis juste fatiguée. Je suis fatiguée d'envie, je vais dormir. Elle m'avait donné un arrêt de travail de 60 jours. Puis je me suis dit, je vais dormir, puis dans 60 jours, puis je me disais même pas 60 jours, j'allais devancer ça. Dans un mois, je serais de retour au bureau. Et puis là, à un moment donné, pour plaire à la GRC, ben, j'étais allée voir une psychologue, ben, j'avais comme pas le choix, mais je croyais pas que j'avais besoin d'une psychologue. Et quand je l'ai rencontrée, on avait un rendez-vous de 2 heures, puis après 1 heure et quart, elle m'a dit, OK, on arrête tout ça là. Tu souffres pas de dépression. Mais j'ai dit, bon, je le savais bien, je ferais pas de dépression, mais elle me dit, tu souffres de troubles de stress post-traumatique, c'est très sévère. Puis moi, j'ai aucune idée c'est quoi le trouble de stress post-traumatique à ce moment-là. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Puis je me dis, je vais me trouver une psychologue qui sait de quoi qu'elle parle. Puis je vais sortir de là, puis je vais... Elle sait pas de quoi qu'elle parle.
Mais dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Dans le fond, c'est que vous êtes en montagne russe perpétuelle. Là. C'est-à-dire qu'il y a des journées, ça va mieux, vous pensez que bon, c'est réglé, je vais être capable de fonctionner.
Ah oui, moi, je vais travailler le lundi qui vient. Là.
Puis après ça, paf, vous faites une rechute.
Oui. Mais là, après ça, quand c'est tombé, là, j'ai compris qu'est-ce qui se passait, là. J'ai compris que les flashbacks, puis là, les cauchemars sont revenus. Moi, je voyais des pendus partout chez nous. Je voyais des traces de sang après mes murs. J'étais plus capable de conduire mon auto, plus capable d'aller à l'épicerie. J'allais plus à nulle part du tout. Je me suis complètement isolée de toute ma famille, mes amis, tout le monde. Et puis là, j'ai décidé de faire confiance à ma psychologue. J'ai décidé que j'allais retourner la voir puis écouter ce qu'elle avait à me dire. Puis elle m'a sauvé la vie, cette madame-là.
Et ce qui vous a amené à quitter la GRC?
Bien, ce qui est arrivé, c'est que ça faisait quand même 2 ans que j'étais en arrêt de travail et ça allait pas bien. J'avais pas remonté la pente encore. Puis un psychiatre de l'hôpital des anciens combattants où je suis traitée, a dit, José, j'écris noir sur blanc que tu retourneras plus à la police. Puis j'ai dit, vous pouvez pas me faire ça. C'est juste ça que je suis capable de faire dans la vie. C'est impossible. Puis il m'a dit, non, si tu retournes, c'est comme si tu te recules puis tu vas rentrer dans le mur. Mais ce coup-là, là, tu n'auras pas une deuxième chance. Fait que j'avais pas le choix. J'ai été obligée de prendre une retraite médicale, mais elle a été forcée.
Parce que vous auriez de toute façon pas pu continuer à faire ça. Vous êtes pas sûr, hein?
Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que à ce moment-là, oui, je le sais quand il a écrit sur le papier, mais maintenant, je suis tellement bien que je ne sais pas si j'aurais pu. T'sais, on n'a pas de boule de cristal, comme on dit toujours. Fait que peut-être que j'aurais pu m'en sortir. Là, je suis bien, je suis capable d'en parler, je suis capable de faire face à tout ça. J'aurais-tu pu continuer la passion que j'avais? Mais là, c'est fini. J'ai décidé de passer à autre chose.
Vous avez 2 filles.
J'ai 2 filles.
Vous avez un conjoint.
Oui.
Ça ne doit pas être facile pour la famille quand la mère la conjointe est dans cette situation-là.
Quand ça rentre dans la famille, ça frappe tout le monde. Mes enfants, ils ont été obligés de grandir, d'être des adultes plus vite. Ils ont été obligés de supporter les 2 enfants ensemble. Je me suis séparée dans tout ça aussi. Ça frappe tout le monde. Je suis plus là. La super maman qui était, ben, il n'y avait plus de vacances, il n'y avait plus de Noël, il n'y avait plus rien. Moi, je sortais plus de la maison. Les activités sportives, on a tout arrêté ça. Les enfants ont dû aller consulter aussi. Mais on a tellement appris, on a tellement grandi dans cette histoire-là, toutes les trois, là, c'est incroyable.
Puis là, aujourd'hui, êtes-vous bien?
Je suis au top de ma vie. J'ai jamais été aussi bien que ça. À 46 ans, je peux pas. Je suis vraiment bien. Moi, ça fait 1 an que j'ai pas de symptômes parce que j'ai fait des thérapies spécialisées. Et puis, quand j'ai décidé d'écouter les spécialistes de la santé, puis j'ai décidé de leur faire confiance. Je me suis tout donné. J'ai donné tout. Ça a été difficile, ça a été long, mais ça valait la peine.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous.
José Kéré, qui est retraité de la GRC, auteur, conférencière, le titre du livre « Flashback » sur le syndrome, le stress post-traumatique. On fait une pause, on vient après. Sujet de tribune téléphonique, tout de suite après ceci. Donc.